Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée consacrée à Victor Colin de Plancy et la découverte française de la Corée à la fin du 19e siècle. Une soirée que la Bulac organise en collaboration avec la Cité de la céramique de Sèvres, représentée donc à ma droite par Stéphanie Bouillet, qui ouvre en ce moment une exposition intitulée Corémania. Et c'est cette idée de découverte frénétique et fascinée de la Corée sur laquelle je voulais insister en introduction. Puisque, comme vous le savez, les études coréennes connaissent en France un intérêt aussi soudain qu'important, avec des sections coréennes dans les différentes universités qui croulent sous le nombre des étudiants. Et à l'occasion de cette exposition de Sèvres, nous avons trouvé intéressant de nous pencher sur les origines de cette curiosité française pour la Corée, donc qui remonte à la fin du 19e siècle, à la fois le moment où la Corée sort de son isolement commercial et diplomatique, et où la France, traumatisée par la défaite de 1870, cherche un peu tous azimuts à se repositionner dans le système diplomatique international, et au moment même où on se penche avec intérêt vers la Russie, vers la Chine, vers le Japon, en se lançant dans des études scientifiques de ces civilisations étrangères, se penche également sur le sort de la Corée. Nous avons évoqué ici même, en décembre dernier, la figure de Léon de Rosny, passeur important dans le domaine des études japonaises, figure de philologue et de traducteur, donc un vecteur intéressant de la découverte du Japon. Et en se penchant sur la découverte de la Corée, on va découvrir une figure de savant totalement différente, celle du diplomate Victor de Plancy, je suis en train, ça y est, d'écorcher son nom, merci, Colin de Plancy, qui, en se penchant vers la Corée, met en œuvre en même temps toute une technique de connaissance encyclopédique du pays qui, loin de se limiter à la découverte de la langue et à la découverte de la littérature, va également se pencher vers une collection tous azimuts dans le domaine des sciences naturelles et de la céramique, ce qui va nous intéresser ce soir, et ce qui va nous aussi nous amener à nous intéresser sur la comparaison croisée entre l'histoire de deux collections, une collection de bibliothèque, celle du fonds coréen de la Bulac et de la bibliographie coréenne, outil scientifique monté avec l'aide de Colin de Plancy que va nous présenter Laurent Kiesefit, responsable du fonds coréen et du fonds mongol de la Bulac, et également enseignant et historien de la Corée contemporaine, et parallèlement le fonds de céramique coréenne rassemblé par Victor Colin de Plancy et confié au musée de la céramique de Sèvres, actuelle cité de la céramique de Sèvres, qui fait donc l'objet d'une importante exposition qui a ouvert il y a quelques semaines et qui se déroule jusqu'au 20 juillet, que je vous invite fortement à visiter, et que va nous présenter sa commissaire, Stéphanie Brouillet, qui travaille à la Cité de la céramique depuis 3 ans, où elle est responsable des collections asiatiques qui sont extrêmement importantes. Et je vais donc laisser la parole en premier à Laurent Kiesefit, qui va donc nous parler du parcours d'encyclopédiste, érudit et diplomate de Victor Colin de Plancy, en s'intéressant notamment à la genèse et au destin de sa bibliographie coréenne, et ensuite à Stéphanie pour nous présenter la collection de céramique de Sèvres et le projet scientifique de son exposition. Et nous aurons bien sûr le temps pour échanger avec des questions à la fin de ces deux interventions.
Merci. Mesdames, messieurs, amis des livres, bonsoir.
Vas-y, vas-y.
Victor Colin de Plancy fut à la fois diplomate, érudit et, ajoutons-le, collectionneur. Sa modestie naturelle dut-elle en souffrir? Il accéda à une certaine célébrité de son vivant à travers diverses publications, quotidiens, articles. Il obtint aussi une gloire posthume avec son rôle dans la promotion de la Corée en France à travers ses collections et différentes expositions. L'homme lui-même est resté, pour ainsi dire, dans l'ombre de son nom, de sorte que le mystère Plancy, si je puis dire, a pu être exploité par la littérature coréenne, puisque l'un de ses successeurs à Séoul, Hippolyte Frandin, dans un ouvrage grand public sur la Corée, intitulé En Corée, a mis en scène, pour ainsi dire, les amours rocambolesques du diplomate avec une danseuse du palais, entre exotisme de pacotille, suicide à la feuille d'or. Je passe les détails les plus croustillants, Le fait est que l'histoire, aussi belle soit-elle, n'est étayée par aucune source. En tout cas, nous n'avons rien trouvé jusque-là. Noté sur la reliure magnifique de l'ouvrage sur la Corée, un chameau, je rappelle que, sauf cas exceptionnel de cadeau, tribu des Khitans, par exemple, il n'y a pas de chameau de Bactriane à l'état normal qui résidera en Corée, ni d'appareil de coche, de charrette de ce type. Cela n'empêche pas, à travers différentes traductions, des Coréens de s'être penchés sur ce fantasme, que ce soit Kim Tak-hwan ou Shin Kyung-suk, avec des fantasmes développés sur la première Coréenne à être allée en France et peut-être même en Afrique, où Colin a été également en poste. Plus sérieusement, Victor Colin de Plancy est le fils de Jacques Colin de Plancy, un érudit, écrivain, libraire, publiciste, entrepreneur. Il a été d'abord anticlérical, très actif, puis il est rentré dans le giron de l'Église romaine après avoir fait des séjours en Belgique ou en Hollande. Surtout, parmi énormément de publications, d'ouvrages sur les croisades ou autres, on lui doit un dictionnaire infernal qui a fait longtemps sa réputation. Ce fut l'un des écrivains les plus laborieux et les plus féconds de notre siècle, indiquait le nécrologue de Jacques Collin de Plancy. Ce que nous savons de sources sûres cette fois, c'est que le jeune Victor a, pendant ses études, il est étudiant, entre 1876 et 1877, a publié énormément de textes, de grande érudition, dans un domaine inattendu, qui est celui de l'herpétologie et de l'entomologie, et notamment sur l'étude des batraciens. Donc, des études très savantes sur l'alimentation des reptiles, les insectes parasites des batraciens, etc., etc., qui lui ont valu énormément de renom parmi les spécialistes, notamment de la société zoologique, et puis aussi quelques récompenses. On lui doit des passages tout à fait troublants qui sont de l'écologie avant la lettre. Il a reçu des louanges et des récompenses. Ses travaux ont été publiés, vous le voyez ici, et nous y reviendrons tout à l'heure parce que je pense avoir trouvé un lien entre l'étude, a priori c'est surprenant, mais entre l'étude de la zoologie et l'étude de la Corée. Mais nous y reviendrons. Donc, étant tout à fait introduit, reconnu, l'un de ses collègues, Fernand Lataste, qui est lui-même un herpétologue et très célèbre dans son domaine, a même baptisé du nom de Plancy une petite grenouille que vous voyez là, commune, non pas en Corée, mais en Chine, où à l'époque se trouvait Colin de Plancy. Je déflore un peu la suite, puisque Colin de Plancy, malgré ses études très savantes en zoologie, a néanmoins passé une licence de droit et surtout un diplôme de chinois qui lui a permis d'entrer dans la carrière diplomatique. À l'époque, on entrait comme interprète de chancellerie. Ici, il est en grand uniforme, paraît de ses décorations. C'est beaucoup plus tard. Il commence très modestement en Chine, comme élève interprète. Il est diplômé de chinois. C'est la carrière normale. Et il va exercer environ 10 ans en Chine, entre Pékin et Shanghai. Puis il sera en poste en Corée. Il fera un tour à Tanger, il reviendra en Corée, et puis il finira sa carrière dans le royaume du Siam. Ne vous inquiétez pas, ce qui est important ici, c'est qu'il a passé 13 ans environ en Corée, mais que ce tableau ne dit pas tout, parce que ces 13 ans ont été interrompus par dénomination partielle, des postes qu'il n'a jamais rejoints, le contre-ordre étant tout soudain arrivé. Surtout entre 1890 et 1892, Victor Colin de Plancy a reçu dans la légation de France, consulat général à Séoul, un jeune interprète, un peu plus jeune que lui, qui entrait dans la carrière et qui s'avéra prépondérant dans la connaissance de la Corée, j'ai nommé Maurice Courant. À Séoul, Victor Colin va développer, surtout vers 1900, l'influence française. Vous voyez ici le bâtiment de la Légation de France, qui a été hélas considérablement détruit par la guerre de Corée et qui a été rasé finalement. Et puis, sur les marches, justement, de ce bâtiment, vous avez la communauté française de Séoul de l'époque, des missionnaires, des spécialistes des mines, du droit, des postes, et ainsi de suite, qui développaient la Corée, qui modernisaient la Corée. Victor Colin a aussi joué un rôle important, de même d'ailleurs que Maurice Courant, dans la promotion de la Corée à Paris, autour de différentes expositions, mais aussi à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, dans laquelle la Corée était représentée par un petit pavillon malheureusement mal situé, puisqu'il était coincé entre les bâtiments de l'industrie et du progrès, mais il était à deux pas de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars, et dans ce bâtiment ont été exposées une extraordinaire série de productions coréennes, dont des livres, livres qui ont été ensuite donnés à bien des institutions françaises. Enfin, en fin de carrière, eh bien, Colin de Plancy, nommé au Siam, quand il ne parle pas la langue pourtant, va être le négociateur du traité franco-siamois de 1907, d'une grande importance car il restitue trois provinces khmères au Cambodge, certes, à l'Indochine française également, trois provinces, donc Siem Reap, Sisophon, Battambang et bien sûr les temples d'Angkor. Et nous en arrivons donc à ce qui fait, je pense, l'intérêt de cette soirée aussi, c'est le rôle plus ou moins connu, plus ou moins défloré par d'autres études, notamment celle du regretté Daniel Bouchèze sur Maurice Courant. Victor Colin de Plancy a été inspirateur et défricheur des études coréennes. Il a hérité sans doute de son père cet amour incroyable des livres. Il a parcouru les librairies, les échoppes de Séoul, achetant traités, fascicules, liasses de feuilles. Et il a fait donc, par la suite, bien plus tard, à la bibliothèque et à différentes institutions, musées Guimet ou autres, de brochures et documents sur la Chine et la Corée, mais aussi sur l'Indochine, le Siam, etc., etc. Je ne peux malheureusement développer ici. L'aventure de la bibliographie coréenne. Il faut comprendre, à l'époque où tout se faisait à la plume, il n'y avait pas d'ordinateur et d'index automatique, que eh bien, Maurice Courant, l'adjoint de Victor Colin de Plancy, a réalisé en un peu moins de 10 ans, 3 volumes et un supplément, 3841 notices bibliographiques, 117 pages d'introduction, qui constituent un ouvrage de référence quasiment inégalé à ce jour et qui est encore utilisé, traduit et commenté de nos jours en Corée ou ailleurs. Cependant, nous savons que Colin de Plancy a une très profonde responsabilité dans le projet de la bibliographie coréenne. La correspondance de Colin de Plancy et Maurice Courant, qui est conservée au ministère des Affaires étrangères, le prouve. Maurice Courant lui reconnaît l'idée, le plan, la configuration générale, la rédaction de certaines notices, les sources préliminaires en langue occidentale qui ont été nécessaires à l'établissement du plan, le soutien officiel à la publication auprès des institutions dont l'École des langues orientales, et le soutien moral entre érudits et chercheurs. Cela s'était su, c'était connu, cela avait été défriché. En travaillant sur cette conférence, j'ai découvert la chose suivante. Premièrement, Victor Collin, puisque c'est lui qui a eu l'idée, a été un familier des catalogues. Il en a rédigé un lui-même, celui, par exemple, sur les catalogues des reptiles et batraciens du département de l'Aube. Herpétologie, entomologie, une longue introduction, 4 pages, pour un document complet de 41 pages seulement. De même, l'entrée est au nom commun, suivi du nom savant en latin, et chaque animal fait l'objet d'une présentation développée. Tournons-nous maintenant vers les premières années du séjour de Colin de Plancy à Pékin. Et là, je pense avoir trouvé l'influence d'un certain Émile Bretschneider, qui est russe et qui est un médecin attaché à la légation russe, mais ce travail lui laisse quelques loisirs et il s'intéresse à la culture chinoise. Il va étudier la géographie historique, laisser un ouvrage sur Pékin, et puis il va travailler sur la botanique dans les ouvrages chinois. Ce sera le Botanicum Sinicum. Le Botanicum Sinicum voit le jour pour son premier volume en 1882. Il précède la bibliographie coréenne, mais les derniers volumes du Botanicum sont publiés en même temps quasiment que la bibliographie coréenne. Le Botanicum Sinicum est un ouvrage sous la forme d'un catalogue raisonné comprenant les ouvrages, une présentation des ouvrages chinois sur la botanique, la médecine, l'agriculture et les céréales, dont les titres et termes sont en idéogramme et en transcription. L'introduction, les notices détaillées des ouvrages et de leur contenu font la richesse de ce travail. L'influence d'Émile Bretschneider est importante puisque le jeune Colin de Plancy a traduit dès 1878-79 les recherches archéologiques et historiques sur Pékin et ses environs de Bretschneider. Ils se sont vus souvent, ils ont été en contact, et Bretschneider, attaché à la légation russe, est aussi très proche de la mission russe et de la bibliothèque qui malheureusement a brûlé pendant l'affaire des Boxers de 1900, qui était aux ordres de l'archimandrite Palladius, alias Kafarov. De plus, Bretschneider est le correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et d'autres institutions, dont des sociétés savantes se rapportant à l'agriculture. Et Colin de Plancy a transmis des échantillons botaniques aux sociétés savantes françaises à la demande de Bretschneider. Par ailleurs, en 1867, il existe les Notes on Chinese Literature de Wiley, qui sont de courtes notices avec les caractères chinois et la transcription des titres, qui sont un inventaire de littérature chinoise. La bibliographie de Paul von Mollendorf, inventaire sec, liminaire, simple liste. Ce n'est pas un catalogue raisonné, mais chaque référence est numérotée. Enfin, la Bibliotheca Sinica d'Henri Cordier donne une autre présentation, tout à fait différente, elle est un peu plus tardive, et il est certain que, aussi bien Maurice Courant que Victor Collin les ont connus. D'ailleurs, si l'on reprend, il est probable que Colin, étudiant à Paris et jeune diplomate, ait eu connaissance du Wiley, du Myers, du Mollendorf, le Myers et le Wiley ont été utilisés par Maurice Courant. Le Möllendorf est cité dans l'une des lettres de Courant, mais il est rejeté comme étant trop sec et quasiment inutile du fait même de sa brièveté. Par ailleurs, Colin de Plancy, cette fois déjà interprète et bientôt consul en Chine, connaît directement les travaux de Breitschneider du Botanicon, dont il a probablement assisté à la naissance, ou en tout cas au travail direct de Breitschneider sur le corpus, et puis, un peu plus tard, les travaux d'Henri Cordier. Par contre, on ne connaît pas certaines influences perdues. À Paris, chez Jacques Collin de Plancy, il existait très probablement des catalogues de librairie. Mais cela ne dit rien des catalogues raisonnés chinois et des contacts de Collin de Plancy en Chine même, avec les lettrés chinois, et en Corée avec les lettrés coréens. Dans l'état actuel, hormis ce qui est mentionné dans la correspondance, le peu de correspondance que nous avons entre Maurice Courant et Victor Collin de Plancy, ou nommément mentionné dans la bibliographie coréenne, on ne sait rien. Les influences certaines, par contre, c'est que le catalogue des reptiles et batraciens ou le Botanicon Sinicum ont certainement eu une influence, je ne dis pas une influence réelle, directe, je ne dis pas que c'est un décalque, je dis que le travail de Colin de Plancy sur les catalogues et sa familiarité avec les catalogues ont certainement influencé sa conception du plan et de la configuration de la bibliographie coréenne. Celle-ci se présente ainsi. Présence des caractères chinois, description méthodique, mention du format du document, localisation. On sait si le livre est à Paris ou à Séoul. Et si oui, on sait dans quelle institution, que ce soit le musée Guimet, l'école des langues orientales, la cour des interprètes à Séoul. On connaît l'origine des documents, ici la collection rapportée par Charles Varin. Et il y a les sources qui permettent la description ou l'historique du livre, mais aussi la présentation de son auteur, s'il est connu. Par rapport aux autres catalogues que nous avons observés, nous avons ici une mise en page très claire, agréable, fonctionnelle. Autre exemple, numéro d'entrée, titre en chinois, transcription du titre tel qu'on l'en concevait à l'époque. Hein, le titre est en chinois parce que c'était la langue de l'administration, mais la transcription, et c'est la lecture à la coréenne, malgré tout. On a la traduction du titre, le format, la pagination, la localisation à nouveau, et la présentation détaillée du texte et de son contenu, y compris les sources permettant d'établir l'identité et la localisation et la présentation des auteurs. Donc c'est très complet, c'est très précis. Cependant, il y a quelques erreurs dont on ne sait pas s'il faut les attribuer à Colin de Plancy, à Maurice Courant ou à quelque autre intervenant. Ainsi, le Fu Min Jong'un sont corrects pour éduquer le peuple, qui fonde en quelque sorte l'écriture coréenne telle que nous la connaissons aujourd'hui et que nous appelons aujourd'hui Hangul, est rangé à la catégorie langue chinoise. C'était peut-être plus simple, la majorité du texte était rédigé en chinois, mais elle s'intéressait à un sujet qui ne l'était plus tout à fait. Donc là, il y a peut-être une erreur de conception des rubriques. D'autre part, j'ai trouvé cette petite erreur, toute minime, qui est en fait une confusion entre deux versions du même texte. D'une part, le Chopke Shino, hein, et sa version remaniée plus tard, qui est le Kesu Chopke Shino, en 12 volumes. Et il y a une version, puisque nous possédons bien la version en 12 volumes, et que l'autre version est conservée à Séoul, à la Cour des interprètes, et que nous ne la possédons pas. Ce sont des erreurs tout à fait minimes, qui montrent d'ailleurs l'importance et le sérieux du travail réalisé par Maurice Courant et Colin de Plancy. Il faut reconnaître dans cette approche une méthodologie, je dirais, assez partagée, puisque de l'herpétologie et la zoologie à la bibliophilie, à la botanique, en passant par la numismatique ou la céramique, il s'agit de repérer, d'analyser, d'identifier, de classer ou répertorier, d'expliquer et de transmettre, par la mise en forme et la publication, de catalogues, bibliographies, voire de conférences. Tout ça, cependant, malgré le travail engagé par Colin Plancy, débouche sur un étrange mystère, puisque Colin de Plancy a toujours refusé catégoriquement de co-signer la bibliographie coréenne. Puisque, comme vous m'avez écrit et répété de vive voix, ne trouvant pas suffisante votre collaboration à la bibliographie coréenne, vous ne voulez pas que votre nom figure comme nom d'auteur, j'aurai donc désormais à m'occuper seul de l'impression et ailleurs d'écrire l'introduction et ainsi de suite. Malheureusement, nous ne possédons pas, je n'ai pas retrouvé pour l'instant, l'autre lettre, celle que Colin de Plancy avait envoyée à Maurice Courant. De même, il faut noter l'étonnement chez Maurice Courant qui, à plusieurs reprises, dans des lettres tout à fait fortes, tout à fait vives par leur style, demande à son mentor « Pourquoi renier l'ouvrage que vous avez fait? Pourquoi vouloir m'en laisser tout le poids? Serait-il juste que je me donnasse comme seul auteur d'un livre où vous avez travaillé au moins autant que moi ?» D'autres extraits de cette même lettre, toujours dans la même veine, ont d'ailleurs été présentés par Daniel Bouchez dans sa biographie de Maurice Courant. Mais le mystère reste entier. La bibliographie coréenne, telle que nous la connaissons, est un travail d'équipe. Il y a eu une inspiration, une exécution, plusieurs contributeurs directs ou indirects, et bien sûr différents correcteurs. Colin de Plancy en a eu l'idée. Le plan, la configuration et la présentation, il a aussi réalisé lui-même plusieurs dizaines de notices. Maurice Courant s'est chargé du gros œuvre. Il a fait l'exécution, les générales, les notices, cette introduction colossale de 117 pages. Il a mis à contribution l'évêque de Séoul, Gustave Mutel, qui a contribué par des documents qu'il a fait parfois même copier complètement pour les envoyer à l'autre bout du monde, non, quand même pas, mais de l'autre côté de la mer, depuis Séoul vers le Japon, où Maurice Courant avait été nommé. On suppose que peut-être Gustave Mutel a aussi fait quelques notices. Enfin, quelques complices des langues orientales, Arnold Vissière, d'autres maires, ont fait des corrections et peut-être, on ne le sait pas, des textes. Ici, il faut noter cette importance de l'enseignement du chinois à l'INALCO à l'époque, enfin, à l'INALCO aujourd'hui plutôt, à l'école des langues orientales vivantes à l'époque, parce que, aussi bien Arnold Vissière, par exemple, que Colin de Plancy, ont été les élèves du comte Kletchkovski, qui était spécialiste de chinois, qui a eu l'occasion, un peu par hasard, de poser le pied sur la péninsule de Corée pour récupérer quelques naufragés français qui s'étaient égarés là-bas, et qui a surtout transmis sa connaissance très profonde du chinois à ses élèves, à tel point qu'on louait la facilité d'élocution et la solidité des connaissances des élèves de Kletchkovski, au grand étonnement, et des Occidentaux résidant en Chine, et même des Chinois. La majorité des élèves à l'époque, peu nombreux il est vrai, s'orientaient vers la carrière diplomatique, et notamment vers ces traducteurs de chancellerie, qui profitaient de leur carrière diplomatique pour se former directement sur place à la langue, à la culture, et qui, pour certains d'entre eux, revenaient à Paris si un poste se libérait et devenaient à leur tour formateurs, enseignants en chinois. D'autres maires, un autre élève, deviendra lui l'un des professeurs de japonais à la suite de Léon Droni. Colin de Plancy, lui, reste dans la carrière diplomatique, mais il va, à différentes reprises, lors de ses congés en France, faire des conférences, dont on a malheureusement perdu la trace, et présenter des collections au Musée Guimet ou ailleurs. Victor Colin de Plancy a été un collectionneur compulsif et en même temps un généreux mécène. Il a cédé, à un prix d'amis, sa collection de médailles et de monnaies, notamment coréennes et chinoises, à la BNF. Nous connaissons ses collections de livres, au musée de Troyes, à la BNF, à la Bulac, au musée Guimet. Une collection sans doute de mille et une petites curiosités qui se sont peut-être perdues dans la famille, mais dont les pièces étaient sans doute moins importantes. Et puis surtout cette collection de céramique que nous allons découvrir tout à l'heure, et quelques échantillons zoologiques assez nombreux qui étaient envoyés de Chine ou de Corée. Ainsi, Colin de Plancy, par cette activité, est un exemple pour Maurice Courant, qui le reconnaît lui-même dans une lettre élogieuse à son chef, à son ancien chef. « Le spectacle de votre activité toujours vive et de votre volonté toujours élevée m'a fortifié et m'a aidé à m'affirmer moi-même. Et si je n'ai que peu profité du modèle, je l'ai eu sous les yeux et je le garde présent à l'esprit. » Et tout est de la même veine. Et il est significatif de lire que Maurice Courant, s'adressant à celui qui est son supérieur hiérarchique, écrit toujours « Cher monsieur de Plancy » et non pas « Monsieur le consul », alors que ses propres cousins, les cousins de Victor Colin de Plancy, tant qu'ils sont eux aussi diplomates, l'appellent « Monsieur le consul » et non pas « Cher cousin ». Ce qui, pour moi, est une marque assez forte de proximité. Ainsi, Victor Colin de Plancy allie la curiosité et l'ouverture, le sérieux, la discrétion, diverses passions, un caractère méthodique. C'est un ami des bêtes qui nourrit les pigeons devant la légation. Il est serviable, chaleureux, c'est le meilleur des hommes. C'est un honnête homme à la manière, je ne sais pas si c'est du 18e ou du 19e, mais c'est une figure qui, aujourd'hui, est devenue incontournable dès lors qu'on s'intéresse aux ouvrages anciens, à la littérature ancienne de la Corée. Merci.
Merci, cher Laurent, pour ce brillant exposé plein de révélations sur la naissance et la genèse de la bibliographie coréenne. Nous allons donc pouvoir poursuivre l'exploration de cette figure d'érudit d'entre deux siècles en s'intéressant à son intérêt pour un art industriel, un art technique, celui de la céramique. Et je ne doute pas que Stéphanie Brouillet va nous montrer que cette collection, elle non plus, n'était pas une pure collection d'esthètes, mais également une véritable collection de savants qui voulaient, au-delà de la collection de beaux objets, aboutir à une véritable présentation de la nature de la céramique coréenne afin de lui permettre d'approfondir la connaissance française de la Corée. Et je vous vois vous battre avec la présentation. J'arrive, Laurent, je te propose qu'on change de place et que je fasse la permutation.
Bonsoir. Moi, je vais vous parler de... Déjà, je vais vous présenter un petit peu rapidement l'exposition. Coréemania, roman d'un voyageur qui se tient à Sèvres depuis le 20 janvier jusqu'au 20 juillet et qui rend un hommage légitime à ce personnage important pour les études coréennes. Et puis, je vais vous présenter ensuite son intérêt pour la céramique coréenne. Donc, l'exposition se tient à Sèvres depuis le 20 janvier jusqu'au 20 juillet et elle est accompagnée d'un catalogue qui a été publié aux éditions Loubatière. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à parcourir parce qu'il reprend un certain nombre d'informations que je vais vous donner et puis il éclaire un peu plus la figure de Colin de Plancy. Donc, l'exposition, comme je vous disais, elle présente à la fois le parcours de Colin de Plancy en Corée, puisqu'il y a, il y arrive en 1886, donc à, une, à la période où la Corée s'ouvre sur le monde occidental avec un certain nombre de traités, l'arrivée des premiers diplomates. C'est le premier diplomate français en Corée. Et il quitte la Corée en 1906, donc juste avant l'invasion japonaise. Cette exposition présente également un panorama de l'art coréen grâce aux collections rapportées par Colin de Plancy. Donc ces collections vont des grès de l'époque des Trois Royaumes jusqu'à l'art populaire de la fin du 19e. Et un volet contemporain de l'exposition sera présenté à partir du 20 mai. Il présentera deux artistes, deux femmes, une coréenne qui s'appelle Kim Ye-kyung, qui est céramiste, qui travaille la technique du punchong, et Kim Yeon-kyung, qui est une jeune verrière qui travaille à Strasbourg et qui crée des œuvres assez spectaculaires en verre. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller jusqu'à Sèvres, ce qui n'est pas tout près par rapport à ici, mais j'espère que vous apprécierez l'exposition. Qui met en valeur les œuvres extraordinaires rapportées par Colin de Plancy, non seulement à Sèvres, mais aussi dans d'autres institutions françaises. Le but de l'exposition, c'était de mettre en valeur les collections coréennes en France. Et donc, nous avons donc 9 prêteurs institutionnels français, dont la Bulac, mais également le musée Guimet, bien sûr, le musée de Troyes, le Conservatoire national des arts et métiers. Et en fait, très vite, quand on commence à s'intéresser aux collections coréennes conservées dans les établissements français, on se rend compte que Colin est partout, puisque la plupart des collections actuellement conservées en France ont été rassemblées par Colin de Plancy et certains de ses proches entre 1886 et 1906. Donc il y a des céramiques, mais aussi des photographies, des peintures, des dessins, des meubles, des sculptures, des imprimés évidemment. Des costumes. Donc nous présentons une sélection de ces objets à Sèvres. Et c'est une originalité aussi des collections coréennes en France, puisque des collections coréennes, il y en a beaucoup en Europe. Mais en France, elles viennent vraiment de cette période d'ouverture de la Corée. Et donc elles sont pas passées par le Japon. Ce qui est assez original, puisque beaucoup de collections constituées notamment en Angleterre, ou en Belgique, par exemple, viennent de collectionneurs japonais, enfin, ou de gens ayant séjourné au Japon à partir des années 1915 et ayant rapporté des objets coréens via le Japon, donc avec un regard japonais. Alors que là, on a vraiment le regard des Français sur la Corée, sur les objets produits en Corée. Donc voilà un peu un échantillon de ce qu'on présente à Sèvres. Vous avez à la fois des peintures donc confucéennes, des coffres, ces petits assistants bouddhiques en bois qui ont été rapportés par Charles Vara, dont je vais vous reparler. Et puis la photo de l'empereur de Corée, donc on est bien après la proclamation de l'Empire de Corée, puisqu'à la suite d'une première invasion par les Japonais en 1895, l'empereur qui s'était réfugié à la légation russe, enfin le roi, pardon, qui s'était réfugié à la légation russe, va proclamer l'Empire de Corée pour essayer de garder à son pays un semblant d'autonomie. Et Colin de Plancy a pu photographier l'empereur et son fils. Cette photographie est aujourd'hui aux archives diplomatiques. Archives diplomatiques qui conservent d'ailleurs un fonds très très important de photographies prises par Colin de Plancy dans le cadre de ses fonctions de consul. L'autre objectif de l'exposition, c'était évidemment, comme je vous le disais, de rendre hommage à Victor Colin de Plancy. Puisque en fait, il a non seulement contribué personnellement de façon très très importante à l'accroissement des collections coréennes en France, mais il a aussi joué un rôle de tête de réseau, si je puis m'exprimer ainsi, en fait pour susciter des dons en faveur des musées. C'est-à-dire que quand lui-même ne pouvait pas forcément acquérir, parce qu'il avait quand même des émoluments qui étaient assez réduits compte tenu de tout ce qu'il achetait, il a incité les voyageurs ou autres à donner au musée, et il s'est occupé personnellement de faire parvenir les œuvres de certains de ces voyageurs dans les musées. C'est le cas par exemple de Charles Vara. Charles Vara, c'est un riche industriel qui fait un voyage en Corée en 1888. Et Colin de Plancy va lui permettre d'acquérir énormément d'objets en faisant venir les marchands directement à la légation de France pour que Charles Varra achète ces objets, en négociant pour lui, en obtenant de la part du roi des laissez-passer et de l'argent pour que Charles Varra puisse circuler en Corée. Et quand Charles Varra revient en France, il fait un petit musée privé au Trocadéro, il présente ses collections coréennes, et il meurt très brusquement en 1894. Les œuvres sont alors placées sous scellés, et c'est Colin de Plancy qui, lors d'un séjour en France, va s'occuper avec la veuve de Charles Varra de récupérer les œuvres et d'en faire don au musée Guimet, donc où elles parviennent en 1894. Pareil pour le pavillon de la Corée en France à l'exposition universelle de 1900, dont vous a parlé Monsieur Kisfit, puisque les œuvres, en fait, la Corée met tous ses moyens financiers à faire parvenir les œuvres en France, et puis après, elle n'a pas l'argent pour rapatrier les objets. Et donc, les objets vont être répartis entre sept institutions françaises, dont notamment le Musée des Arts et Métiers et le Musée de la Musique. Donc vraiment, on a affaire à une... Dès qu'on commence à s'intéresser aux collections coréennes, il est vraiment incontournable, il fallait absolument lui rendre hommage. Vous le voyez ici installé à son bureau à la Légation de France à Séoul. L'exposition, en plus, permet de présenter, donc, comme je vous l'ai dit, un panorama de l'art coréen de l'époque des Trois Royaumes jusqu'au début du XXe siècle. D'autant plus intéressant que ça prouve l'intérêt que les Français de l'époque, donc Colin de Plancy au premier chef, portaient à l'ensemble de l'art coréen. Ils ne se sont pas intéressés qu'à une partie de cet art, mais vraiment, ils ont rassemblé des objets de partout, avec quand même une prédilection, je pense, pour ce qui était plus accessible, plus facile à trouver, donc la période Choson. Mais on a vraiment des objets de toutes les périodes, puisque vous avez donc des grès du royaume de Shilla, évidemment les Céladons. C'est Céladon coréen qui fascine Colin de Plancy et puis les Japonais plus tard. Des petits objets de lettré en porcelaine blanche, comme ce pot à pinceau. Des œuvres bouddhiques. Alors c'est très intéressant les œuvres bouddhiques, parce que ça prouve que Charles Varra et Colin de Plancy ont eu accès au monastère, qui à l'époque était dans les montagnes, donc n'était pas en ville, puisque le bouddhisme était interdit en ville. Donc ils ont eu accès à des monastères et qu'ils ont pu acquérir des œuvres très importantes, puisque par exemple ce Bouddha et ses assistants datent d'avant la première invasion japonaise de 1592, donc de tout début de l'époque Choson, et donc sont très très rares, y compris en Corée, il n'en reste pas beaucoup des comme ça. Et puis aussi des peintures, ces peintures populaires qu'appréciait particulièrement Charles Varra, avec ses couleurs très vives. Ici, vous avez une carpe, l'illustration d'une légende chinoise, qui est la carpe qui remonte le courant pour devenir dragon, qui est aujourd'hui conservée au musée Guimet. Les liens entre Colin de Plancy et Sèvres justifient également que nous fassions cette exposition chez nous, à Sèvres, et pas forcément à Guimet. Donc c'est la première exposition depuis l'exposition Satsuma en 2002 à être consacrée à l'Asie, à Sèvres. Alors pourquoi faire cette exposition à Sèvres ? Parce que nous avons donc 275 objets coréens, ce qui est quand même assez conséquent. Bon, c'est assez peu par rapport au fonds chinois qui compte 4000 objets, mais en tout cas c'est quand même déjà un fonds conséquent. Et sur ces 275 objets coréens, on en a 250 qui viennent directement de Colin de Plancy. Sans parler des autres dons qu'il a suscités. Et par ailleurs, trois céramiques coréennes qu'il a offertes au musée vont servir de modèle à des vases créés par la manufacture de Sèvres. Donc à l'époque, le musée et la manufacture entretenaient des liens très très étroits. Donc on a trois vases qui portent des noms qui rendent hommage à Colin de Plancy. Donc il y en a un qui s'appelle Colin de Plancy, donc là c'est assez clair. Il y en a un qui s'appelle Séoul et l'autre qui s'appelle Ulsan. Et de plus, Colin de Plancy entretenait des rapports assez étroits aussi avec un ancien ouvrier de la manufacture de Sèvres, Léopold Rémion, qui faisait partie de ces conseillers qu'a évoqué Laurent Kisfi, donc ces conseillers français à la cour du roi de Corée. Donc lui était céramiste et le roi de Corée lui avait demandé de fonder une manufacture de porcelaine à l'image de ce qui se faisait à Sèvres. Donc Léopold Rémion s'attelle à la tâche, crée une fabrique Et puis, elle cesse de fonctionner très, très rapidement, faute de crédit, parce que ça coûte cher de faire de la porcelaine, surtout donc dans ces périodes difficiles. Donc là, vous avez l'exemple. Vous avez sur votre gauche le vase coréen rapporté par Colin de Plancy. Donc, il date du XIIIe siècle, il y a une couverture Céladon. Et à droite, le vase dit Colin de Plancy, créé à la manufacture de Sèvres en 1904. Donc, il s'en est fait beaucoup d'exemplaires. C'est une forme qui a eu un succès relatif. Donc, vous voyez qu'elle a reçu un décor qui n'a rien à voir avec le vase coréen. Mais en tout cas, la forme est très, très proche. Et puis, le nom ne laisse aucun doute sur l'origine. Et ce qui était intéressant aussi avec cette exposition, c'était de montrer, effectivement, comme le disait Monsieur Kisfi tout à l'heure, que Colin va appliquer à la céramique coréenne les mêmes méthodes qu'il applique aux batraciens, aux reptiles ou aux ouvrages imprimés, puisqu'il va s'intéresser à tout et il va rassembler énormément d'objets pour illustrer absolument toutes les techniques, toutes les périodes de la céramique coréenne. Et aussi très intéressant pour nous à Sèvres, hein, puisque nous sommes un musée technique au départ, donc un musée de céramique, fondé pour servir de répertoire à la fois des formes mais aussi des techniques céramiques, puisque Colin de Plancy va nous rapporter des objets défectueux qui témoignent des techniques de cuisson. Donc je vous montre deux exemples. Vous avez cette soucoupe avec en fait un raté de cuisson, c'est-à-dire probablement dans le four, des débris liés à la cuisson qui sont tombés dans la coupelle. Et vous avez cette jatte, en fait, qui témoigne de l'empilement en fait, des objets dans le four. Donc vous avez, les objets étaient empilés dans le four, étaient cuits sans protection, ce qu'on appelle une gazette. Et donc là, typiquement, il y a eu un raté, puisque la pièce qui était au-dessus a laissé une partie dans la pièce qui était en dessous. Donc pourquoi c'est intéressant pour nous d'avoir ces pièces-là? Déjà parce que c'est des pièces qui témoignent de la technique, du mode d'enfournement, ça veut dire pas de gazette, par exemple, puisqu'il y a ces débris de cuisson. Et ça permettait à la manufacture de mieux comprendre aussi les pâtes, la nature des pâtes, la nature de la cuisson, à la manufacture et à son laboratoire, puisque nous avons toujours un laboratoire à Sèvres. Et puis ça permet aussi donc vraiment de documenter de façon extrêmement précise et pointue la céramique coréenne. La façon dont Colin rassemble ses échantillons est assez représentatif aussi de sa volonté vraiment de rassembler des choses très très larges, puisque dans les collections nous avons des objets de diverses provenances. Nous avons des dons du roi de Corée, donc qui ont été faits soit directement à Colin de Plancy, soit au président français via Colin de Plancy. Je vais vous en reparler. Il y a effectivement des objets qui proviennent de fouilles effectuées dans des tombeaux et aussi sur des anciens sites de production de céladon. Donc les objets précédents proviennent probablement de sites de fouilles, de fours en fait. Souvent sur un four de céramique, il y a une partie de rebut de pièces jetées. Et pour les gens qui travaillent sur la céramique, c'est peut-être la partie la plus intéressante de ce qui se fait des fouilles, des fours. Et puis, on sait aussi qu'il achète énormément auprès de marchands coréens, sans compter, puisqu'il achète très très cher certains objets qui sont absolument pas coréens. On a les valeurs des objets, donc on sait qu'il s'est fait avoir. Voilà. Donc là, vous avez trois exemples d'acquisitions différentes. Donc on a le vase sur votre gauche, cette jarre à support de tortue. Alors c'est un vase très très spectaculaire qui... Et en fait, d'une seule pièce, hein, d'un seul tenant, donc c'est pas amovible. Et ce vase, il en existe à peu près 6 exemplaires, ou 5 exemplaires dans le monde de ce type de vase. Il y en a deux en France, un à Guimet et un chez nous, tous les deux offerts par Colin de Plancy. Et en fait, on s'est rendu compte, en examinant des gravures et des illustrations de l'époque de l'Empire coréen, donc ce tout début du XXe siècle en Corée, que ces vases ornaient les tables des banquets auxquels étaient reçus les diplomates étrangers. Donc il s'agit probablement d'une production spécialement pour les étrangers, pour décorer les tables en leur honneur. Et donc il est tout à fait possible que ce vase ait été acquis, soit par don, soit payé, par Colin de Plancy à l'issue d'un de ses banquets. C'est pas du tout impossible, vu qu'on sait qu'il a été fréquemment invité à la cour. Le bol en haut à droite a quant à lui été offert par le roi de Corée au président Sadi Carnot. Par l'intermédiaire évidemment de Colin de Plancy. Alors pourquoi ce don ? C'est quand même un don extraordinaire puisqu'il s'agit d'un bol en céladon du XIIe siècle avec une couverte magnifique. Donc couleur, c'est la couleur que les Coréens appellent plume de martin pêcheur. Donc. Et en fait, ce bol a été offert au président Carnot qui ensuite, fortement poussé par Colin de Plancy, en a fait don au musée de Sèvres. En fait, Colin de Plancy envoie les bols à l'Élysée en disant « Voilà, voici deux bols pour le musée de Sèvres, mais adressés au président Carnot. » Enfin, c'est assez incité, c'est quasiment un ordre. Et en fait, pourquoi ? Parce que le président, toujours très fortement poussé par Colin de Plancy, avait fait don au roi de Corée de trois vases de Sèvres. Deux vases de Sèvres et une vasque, qui sont toujours aujourd'hui conservés à Séoul. Et donc, en remerciement, le roi de Corée offre par le même biais ses bols à Sèvres. Et puis, vous avez en bas à droite un exemple des pièces probablement retrouvées dans un tombeau, d'un de ces tombeaux qu'a pu fouiller Colin de Plancy. Il s'agit d'un vase d'époque du Silla unifié, donc qui date à peu près du IXe siècle. Et en fait, vous voyez ces coulures vertes qui sont liées à... En fait, ce sont des coulures accidentelles, c'est-à-dire que de la cendre venait se coller sur la pièce en cours de cuisson et vitrifiée. Et donner cette couleur verte. Et c'est ça qui a donné l'idée au potier coréen ou chinois de recouvrir carrément la pièce de cendre pour faire des couvertes, en fait. L'autre intérêt, l'autre volonté de Colin sur l'histoire de la céramique, c'est de reconstituer l'histoire de la céramique. Il évoque d'ailleurs, dans sa correspondance avec Sèvres, la volonté d'éventuellement publier. Donc je reviendrai là-dessus. Il évoque surtout ses difficultés liées à l'absence de sources. En fait, en France, il n'y a pas grand-chose, et en Corée, les lettrés confuciens ne s'intéressent pas beaucoup à la production des périodes antérieures et pas beaucoup à l'artisanat. Donc, il n'y a pas grand-chose sur les techniques de production. Et quand lui-même parvient en Corée, les grands fours contrôlés par l'État qui produisait notamment la porcelaine blanche, sont complètement décrépits et ne produisent plus grand-chose de qualité. En France, les rares écrits sur la porcelaine coréenne, sur la céramique coréenne, se trouvent dans les écrits sur la porcelaine chinoise, avec une controverse assez intéressante, puisque certains auteurs très informés disent qu'il n'existe aucune céramique coréenne. Ça n'existe pas. Et puis d'autres, par contre, pensent que la céramique coréenne, c'est les pièces kakiemon. Donc ce sont ces pièces japonaises à décor bleu, blanc, vert et rouge qui ont énormément plu en Europe au XVIIIe siècle, à tel point qu'elles ont été copiées à Meissen et à Sèvres. Et en fait, dont on ne sait pas très bien... en fait, quand elles arrivent au XVIIIe siècle, on les appelle porcelaine d'ancienne Corée. Alors ça s'explique peut-être par le fait que les artisans qui travaillaient à Harita au Japon étaient coréens, puisque les Japonais avaient raflé un certain nombre de potiers lors des invasions japonaises de la fin du XVIe siècle. Et donc les potiers coréens s'étaient installés à Harita et c'est eux qui lancent vraiment l'industrie porcelainière japonaise. Mais ce sont quand même des pièces japonaises. Donc voilà. Les rares Français qui parlent de la porcelaine coréenne, c'est soit pour dire qu'elle n'existe pas, soit pour dire qu'il s'agit donc des kakiemon et que donc c'est la plus ancienne porcelaine à émaux peints du monde. Donc les émaux peints, ce sont ces couleurs appliquées sur la porcelaine et qui nécessitent une seconde cuisson. Donc on est assez loin du compte, hein, puisque il n'y a pas d'émaux peints en fait en Corée, de porcelaine d'émaux qui serait appliqué après une seconde cuisson. Ça ne se fait pas du tout là-bas. Donc voilà. Mais en tout cas, aucune évocation dans les écrits des Français des céladons, qui sont les productions emblématiques de la période Koryo et qui et auxquelles les amateurs japonais vouent un culte depuis le 15e siècle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la correspondance entre Colin de Plancy et Édouard Garnier, qui était conservateur à Sèvres, vraiment, Colin de Plancy soulève toutes ces difficultés en disant que il faut marcher sans guide. Il explique qu'il a vainement consulté ici tous les plus hauts fonctionnaires. Personne n'entend un mot à cette question complexe. En outre, j'ai cherché les livres coréens qui auraient pu traiter ce sujet. Il n'en existe pas. Je m'efforce en ce moment de découvrir dans les ouvrages chinois ou japonais quelques indications. Je poursuis un certain nombre de fouilles qui m'ont déjà fourni une grande quantité de fragments du plus vif intérêt et permis de restituer une sorte de chronologie dans les étapes de fabrication. Autant qu'il m'est donné d'en juger dès maintenant, l'art de la terre a été beaucoup plus avancé en Corée et a subi plus de transformations que je ne l'aurais supposé tout d'abord. Mais, puisque j'ai entrepris cette étude, vous estimerez sans doute comme moi qu'il faut tâcher de la faire aussi complète que possible, et je vous demande encore un crédit de quelques mois avant de vous transmettre les notes archéologiques que vous désirez. Voilà. Donc, il explique que ses difficultés à retracer l'histoire de la porcelaine coréenne. Et on se rend compte aussi, quand on va dans ses archives personnelles à Troyes, donc ses archives personnelles ont été léguées à la médiathèque de l'agglomération troyenne, et il a accumulé énormément de documentation, tous azimuts. Il y a des photos, des traductions d'ouvrages japonais, des traductions d'ouvrages anglais. Il était en correspondance avec les conservateurs de la Smithsonian à Washington, qui avaient déjà des pièces coréennes dans leur collection pour savoir d'où elles venaient, comment elles étaient rentrées dans leur collection, si elles étaient anciennes, etc. Et le mystère, alors là on retombe sur le même mystère auquel on est confronté face à la bibliographie coréenne, c'est que malgré l'énorme documentation accumulée, malgré l'ensemble des objets rapportés, il n'a jamais publié. Par contre, il a fait publier, exactement comme pour la bibliographie coréenne. Colin est l'architecte, enfin l'initiateur d'un projet qui est celui d'Anatole Bilquin. Donc Anatole Bilquin n'a jamais séjourné en Corée, mais était professeur de chimie à l'université de Pékin. Donc il était à la fois très bon chimiste et très bon sinologue. Et Colin de Plancy le rencontre lors de ses séjours à Pékin en tant qu'interprète à la Légation de France. Et il va lui demander de travailler sur la porcelaine coréenne. Il indique dans une lettre au musée Guimet « J'ai beaucoup connu M. Bilquin, je lui avais précisément demandé des indications sur les informations contenues dans les livres chinois relativement à la porcelaine coréenne. » Et Bilquin va travailler longuement là-dessus, va déjà rassembler un certain nombre d'objets envoyés à Sèvres et va traduire un certain nombre d'ouvrages coréens, chinois. Mais lui aussi décède brusquement en 1894, comme Charles Vara. C'est pas de chance cette année-là pour les études coréennes. Et donc, sa note sur la porcelaine coréenne reste manuscrite. Et c'est Colin de Plancy qui, à la demande d'Émile Guimet, va contacter la veuve de Bilquin et va obtenir le manuscrit pour que celui-ci soit publié en 1894 aux éditions du musée Guimet. La note sur la porcelaine coréenne d'Anatole Bilquin, qu'est-ce qu'elle contient ? Elle contient des traductions d'ouvrages chinois. Alors c'est une note assez courte, hein. Imprimée, ça fait une vingtaine de pages tout au plus. Anatole Bilquin reprend la traduction d'ouvrages chinois qui avait été déjà traduit par Stanislas Julien, notamment le Qing Techen Taolu, qui est l'histoire de la fabrication de la porcelaine de Qing Techen. Qing Techen, c'est le grand centre porcelainier chinois qui est situé au sud-est, qui est là d'où viennent toutes les porcelaines chinoises depuis le 14e siècle, quasiment, hein, en tout cas tous les bleus et blancs. Et dans cet ouvrage que Anatole Bilquin traduit, on évoque très précisément les signes distinctifs de la porcelaine coréenne, puisque le Qing Techen Taolu dit que les porcelaines de Corée sont verdâtres. Les gens du pays appellent cette couleur « fei tsui », littéralement « couleur de Martin Pêcheur ». Et ce que Bilquin arrive à démontrer avec certitude, c'est que, un, oui, la céramique coréenne existe, qu'elle existe même depuis fort longtemps, puisque, voilà, elle est évoquée dans des ouvrages anciens chinois et qu'il y en a trace dans des tribus que la cour de Corée envoie à l'Empire de Chine, qu'il n'y a jamais eu d'émopin sur les porcelaines coréennes, donc les kakémon, c'est pas coréen, mais que par contre, on peut quand même considérer que la céramique coréenne est antérieure à la porcelaine japonaise, hein, ce qui était aussi un sujet de controverse, puisque les céladons ont inspiré beaucoup la production japonaise. Donc, en fait, c'est le premier ouvrage sur la porcelaine coréenne, et à ce jour, en France, il n'y en a pas eu beaucoup de plus, en fait. En tout cas, rédigé par des Français. Et Bilquin ne se contente pas de traduire, il rassemble aussi des objets, donc des objets coréens. Alors, c'était plus compliqué pour lui, puisque c'était des objets coréens qui étaient accessibles en Chine. Donc, il rassemble des objets coréens qui sont envoyés à Sèvres. Il s'agit pour la plupart donc de porcelaine blanche de l'époque Joseon, avec des formes irrégulières et une couverte blanche. Irrégulière également, c'est très caractéristique de la porcelaine coréenne, mais vous allez voir peut-être pourquoi ça plaisait pas forcément au public de l'époque. Donc faut s'imaginer ce genre de pièces, donc très très sobres, aux lignes irrégulières, qui sont tournées, mais de façon, on voit encore les traces du tour, face par exemple aux porcelaines de Canton, donc aux couleurs rutilantes, couvertes d'or, qui plaisaient beaucoup à l'époque, et on comprend tout à fait pourquoi certains auteurs ont pu dire que la porcelaine coréenne, vraiment, c'était quantité négligeable. Alors que maintenant, enfin, c'est des pièces qui sont très appréciées, parce qu'elles ont justement une sobriété, un raffinement tout à fait appréciable. Donc, voilà pour... pour Colin de Pansy et enfin pour la céramique. Donc pour conclure, c'est vrai qu'il était nécessaire de rendre hommage à cette grande figure des études sur la Corée en France de façon vraiment appuyée et en montrant les collections qu'il a rapportées. Et puis également en s'éloignant un petit peu du roman, de l'image un peu romanesque qu'en ont les Coréens. On voulait aussi rendre hommage au fait qu'il avait fait connaître la Corée en France en suscitant donc les études sur la littérature, comme vous l'avez dit, sur la céramique. Et puis, évoquer ce mystère, pourquoi est-ce que lui-même n'a jamais publié ni récit de voyage, ni ouvrage savant, rien sur son séjour coréen, alors que à l'époque, tout le monde publiait, y compris des gens qui... Enfin, il y a des publications de récits de voyageurs qui ont passé 4 jours en Corée et qui publient 400 pages. Hein. Donc ça, c'était pas du tout un problème de matériaux. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a jamais publié ? Ça, c'est une question qui reste, à mon avis, insoluble.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais vous laisser la parole pour prendre quelques questions. Si tu veux bien me passer le micro. Je vous attendrai d'attendre que je vienne à vous, car cette présentation est enregistrée. Et pour que nous ayons tout le sel de la réponse qui serait faite à votre question, il faudrait que nous ayons le son de votre question également. Y a-t-il des audacieux qui se lancent ou je commence ? Non, il y a des audacieuses.
Alors, je vais en profiter, puisque j'ai le micro, pour poser deux questions, si c'est possible. D'une part, de situer dans le temps la porcelaine coréenne par rapport à la chinoise. Et d'autre part, c'est une question très annexe par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi le bouddhisme est-il interdit en ville ?
Alors, je vais répondre à votre première question. Déjà, la porcelaine coréenne est postérieure à la porcelaine chinoise. C'est vraiment les Chinois les premiers. Et d'ailleurs, les céladons, c'est vraiment une invention chinoise. Hein, une invention autour du 11e, 12e siècle. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les Chinois, en fait, les Coréens ont développé le céladon. Et ont inventé des techniques inédites, notamment les techniques d'incrustation, de décor par incrustation, qui consistaient en fait à graver, en fait, à creuser dans la pièce crue, à y mettre de l'engobe de couleur et à recouvrir le tout d'une couverture translucide. Il y a une pièce d'ailleurs, il y a une pièce à décor d'incrustation dans les collections de Colin. Et ça, même les Chinois ont reconnu que c'était supérieur à ce qu'eux pouvaient faire. Il y a des textes chinois du XIIe siècle qui disent que la couleur des céladons coréens et les techniques des céladons coréens est première sous le ciel. Donc, pour que les Chinois reconnaissent la supériorité d'une production étrangère, c'est quand même plutôt bien. On peut pas
l'avoir. Si, on va pouvoir rebasculer sur la présentation. Il suffit de changer de source, ça prendra quelques minutes, mais ça nous laisse le temps de... Non, éventuellement, ça a l'air de se faire tout de suite.
C'est suspect. C'est la pièce en bas à gauche. Donc vous voyez, en fait, elle est creusée. On creuse dans la pièce, on y met de l'engobe de couleur blanche ou noire et on recouvre le tout d'une couverture translucide. Ça se fait en une seule cuisson. C'est techniquement extrêmement difficile à faire parce qu'il faut à la fois que la couverte soit vraiment translucide, sinon on voit pas le décor en dessous, et parce que ça fragilise énormément la pièce de creuser dedans, sachant que la pièce est pas épaisse, hein, donc on creuse vraiment sur quelques millimètres. Et ça, c'est coréen, c'est une technique uniquement coréenne qui a été après copiée par les Japonais plus tard, mais qui reste le sommet de ce qu'on a pu faire en matière de céladon.
Alors, nous sommes quelques-uns à avoir profité d'une visite guidée de cette exposition, donc je ne saurais trop vous inciter à aller la voir, car la photographie ne rend pas complètement la valeur de la pièce et de la délicatesse de ce décor quand on l'envoie sur place.
Et pour répondre à votre deuxième question sur le bouddhisme, je ne sais pas si M. Kisfi veut répondre. En tout cas, je peux déjà vous dire que la dynastie, à l'époque Choson, s'inspire du néo-confucianisme. Et donc, selon les préceptes du néo-confucianisme, les autres religions sont dévalorisées. Sachant qu'à l'époque Koryo, les moines bouddhistes avaient pris une importance vraiment très très importante dans les affaires de l'État. Et du coup, la nouvelle dynastie préfère prendre cette distance et reléguer le bouddhisme en dehors de la ville. Mais je pense que M. Kisofi peut compléter. Ou...
Ah, Monsieur Kisofi,
oui, il se trouve que nous avons dans la salle un éminent spécialiste du bouddhisme coréen qui sera plus à même que moi, je pense, de répondre. Profitons-en.
Donc la parole est à la salle.
Oui, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc oui, juste dire que le changement de dynastie qui s'opère donc à la fin du XIVe siècle a pour résultat effectivement de faire en sorte que la nouvelle idéologie dominante qui est le néo-confucianisme effectivement implique un rejet des autres grands courants de pensée, enfin une espèce de position assez fondamentaliste, donc rejet du taoïsme, rejet du confucianisme, du bouddhisme. Et donc, il y a une volonté d'éradiquer toutes les institutions bouddhiques. Et c'est vrai que les monastères vont être peu à peu interdits dans la capitale. Et il va y avoir des règles comme quoi donc, les monastères doivent se trouver à une certaine distance des lieux d'habitation, notamment de la main-d'œuvre qui travaillait dans les monastères. Et donc, ça a effectivement conduit à un isolement du bouddhisme qui s'est effectivement déplacé des villes vers les montagnes, vers des lieux assez reculés, sachant qu'il y a eu un interdit de nouvelles fondations en dehors de gens qui avaient la possibilité d'aller au-delà de la loi, donc en dehors de la famille royale, il y avait un interdit donc de nouvelles fondations, donc ils étaient condamnés à dans le meilleur des cas à pouvoir reconstruire sur place les bâtiments. Donc, ça a conduit en fait concrètement à une réduction très importante du nombre des monastères, d'autant plus que les subventions étaient elles-mêmes supprimées. Donc, ça a réduit assez drastiquement le nombre des monastères. Et l'interdiction, notamment à Séoul, même de l'entrée des moines, ça a été symbolique parce que souvent ils arrivaient à se cacher, enfin à passer inaperçus. Mais ça a été levé officiellement sous l'influence des écoles japonaises qui commençaient donc à s'installer en Corée seulement à la fin du 19e siècle. Et c'était une levée temporaire. Donc ça dit bien combien le bouddhisme a été effectivement écarté des centres de pouvoir, des centres démographiques, et ça illustre sa mise à l'écart, mais il y a eu quand même il n'a jamais disparu, et il y a eu des formes de soutien, on va dire, par voie privée, associative notamment, qui ont quand même permis au bouddhisme d'avoir une certaine vitalité à partir du, on va dire, ça a redémarré vers le 18e. Il y a eu une espèce de retour, mais globalement on peut dire que c'était quand même une politique répressive, en tout cas qui empêchait le développement du bouddhisme. Et que la présence japonaise et le pouvoir colonial a paradoxalement ravivé, mais pour servir d'instrument à la politique coloniale japonaise. Voilà.
Et si je peux compléter, ce qui est intéressant, c'est que dans les collections rapportées par Colin de Plancy et Charles Varra, on a un vrai témoignage de cette persistance du bouddhisme dans les arts coréens, puisqu'ils ont rapporté donc non seulement des sculptures, mais aussi un certain nombre de grandes peintures datant de la fin du XVIIIe siècle ou des débuts du XIXe siècle, et de grandes peintures de gardiens de temples, de bouddhas, et tout ça témoigne de cette vitalité de cette religion malgré les pressions et l'éloignement.
Et est-ce que cet intérêt pour le bouddhisme, on le retrouve aussi dans la bibliographie coréenne ?
Oui, il y a dans la bibliographie coréenne quelques éléments qui apparaissent, mais qui ne sont pas forcément les plus développés non plus. Moi, j'avoue que je n'ai pas regardé la thématique de la bibliographie coréenne. Il faudrait faire un grand travail sur à la fois l'architecture de cette bibliographie coréenne et puis sur les sources utilisées par Maurice Courant et Colin de Plancy.
Mais juste, bon, moi, j'ai pas fouillé toute la bibliographie coréenne de Maurice Courant, loin de là. Donc, moi, je suis maître de conférence à Paris 7 à côté, dans la section d'études coréennes. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup récolté, en tout cas au moment où il y a eu ces achats, enfin, de textes de rituels. Il y avait paradoxalement, en fait, une des catégories de textes qui a eu une assez grande fortune, même sous cette période de répression, c'était les textes en fait de mandala ou de mantra, donc de dharani, qui était en fait une sorte de formule magique, considérées comme des formules magiques, des incantations, qui étaient à la fois donc en plusieurs langues, en sanskrit, en transcription phonétique en sinogramme et aussi en alphabet coréen. Donc on a des choses assez intéressantes. Enfin, je pense que ça donne une bonne idée de la vie cultuelle, de la vie rituelle bouddhique. Donc du 18e, 19e siècle. Plutôt à usage populaire, évidemment.
Oui, le grand intérêt de la bibliographie coréenne, c'est que, je dirais, un peu par hasard, au petit bonheur la chance, pour ainsi dire, les textes ont été collectés un peu comme ils venaient, mais avec une objectivité de la part du collecteur, donc Colin de Plancy ou Maurice Courant, beaucoup plus grande que celle des Coréens eux-mêmes à l'époque. D'où cette présence de textes populaires qui n'auraient pas intéressé le moindre lettré à cette époque-là. Et je pense que c'est ça qui fait aussi cette valeur, c'est qu'on a un corpus avec des textes confucéens aussi, bien sûr, c'est incontournable, mais à côté, il y a des éléments qui n'apparaissent pas forcément dans les catalogues officiels, entre guillemets, des lettrés coréens de l'époque.
Et c'est en ça qu'on peut avoir un parallèle en fait très fort entre cette œuvre de collecte de la bibliographie et les œuvres qui sont présentées lors de l'exposition, dans lesquelles, aux côtés des œuvres prestigieuses de la cour impériale, il y a un vrai souci de collecte de la vaisselle et des matériaux de toutes les classes sociales de l'époque, oui. Et qui en fait sa valeur anthropologique, ethnologique, à côté de sa valeur esthétique.
Il y avait un souci chez Charles Varra, notamment, vraiment de collecte ethnologique, d'objets du quotidien, d'objets évoquant les croyances populaires, le chamanisme, de tambours, de hochets, de peintures. Cette peinture que vous avez là, c'est absolument pas une peinture de lettré. Ce sont vraiment des peintures qui relèvent de l'art populaire, qui sera baptisé plus tard l'art minois. qui est un art vraiment très coloré, plein de symboles auspicieux, de symboles positifs, qui était destiné à orner les demeures, les espaces des femmes, et qui était assez méprisé par les lettrés. Et ça, Charles Varat collecte ça sans problème, avec l'idée aussi qu'il s'agit d'un art et d'un mode de vie en voie de disparition du fait de la modernisation du pays. Un peu le même souci qu'un Albert Kahn, par exemple, qui avait comme souci de documenter des modes de vie en voie de disparition.
Oui, juste une petite remarque. Malgré ce travail ethnographique très, très profond, très, très éclectique, mais il se trouve qu'il y a un autre mystère dans les collections céramiques, c'est l'absence de cette poterie rurale, populaire, des Ongi, cette porcelaine noire, rustique, usuelle, qui, semble-t-il, n'a pas remporté les suffrages de nos héros de ce soir.
Non, et à la place, on retrouve des céramiques qui sont dites coréennes, des céramiques d'usage populaire, et qui en fait sont de production soit chinoise, soit japonaise. Donc c'est aussi un des mystères de cette collecte, c'est qu'ils ont, dû récupérer aussi ce qu'on leur donnait, et parmi ces objets, il y a des objets qui sont pas coréens.
Bonsoir, j'ai une question, c'est juste un point de détail. Dans les titres de la bibliographie coréenne, c'est écrit donc en caractère chinois, en caractère angoul, et puis il y a une transcription aussi en japonais, il y a une raison particulière à cela?
Oui, en fait, à la suite du refus que j'ai évoqué de Colin Plancy de signer, il se trouve que le maître d'œuvre était Maurice Courant, qu'il était tout simplement en poste à Tokyo, et qu'il était plus facile sans doute pour lui de faire un certain nombre de planches et d'opérations là-bas, avec des graveurs sur bois par exemple, pour imprimer la bibliographie coréenne dans les meilleures, avec les meilleures typographies et les meilleures... parce qu'à Paris, c'était beaucoup plus compliqué à cette époque-là. Et puis il y a ce souci d'ouvrir au plus grand nombre peut-être aussi la bibliographie.
Je quitte mon costume de Monsieur Loyal pour poser aussi la question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, justement sur cet aspect multi-écriture de la bibliographie coréenne. Donc si je comprends bien, on a à la fois pour les caractères asiatiques, on a un mélange de xylographie et de caractères mobiles d'imprimerie pour les caractères européens, et le tout a été assemblé à Paris.
Je ne sais pas si tout a été assemblé à Paris. Non, une partie a été publiée à Tokyo. Je ne suis pas sûr, par contre, que le supplément ait été publié à Tokyo. Ça, il faudra revérifier. Je n'ai pas poussé mes recherches jusque-là, en tout cas à ce stade. Mais le travail sur les écritures multiples, je n'ai pas travaillé dans le détail des gravures, hein, parce que la bibliographie coréenne, en plus du texte, comprend un certain nombre de gravures, cul de lampe, etc., issus des différents ouvrages cités pour la plupart, mais... il y a aussi des ouvrages de traduction, des ouvrages sur le sanskrit, des ouvrages sur le japonais. Hein, l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure, le Hyopeshino, est en fait un manuel de traduction de style épistolaire destiné à la formation des interprètes de japonais. Mais il existe la même chose sur le chinois et quelques textes aussi sur le mongol ou peut-être le manchou.
Bonsoir, je m'adresse plutôt à vous. En ce moment, la Corée du Sud a une production cinématographique très intéressante où ils revisitent une partie de leur histoire. Et il y a récemment une série qui est sortie sur l'histoire d'une potière du XVIe siècle qui donc a fait l'objet d'un kidnapping par les Japonais qui s'appelle, l'original c'est Baek Pa-seon. Je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous avez entendu parler de cette série. C'est passionnant parce qu'on y voit justement le travail sur la poterie. Donc c'est très très intéressant.
Ouais. On m'en a parlé, mais je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Mais c'est effectivement assez fondateur, cet enlèvement des potiers. En fait, donc en 1592, quand le Japon envahit la Corée, ils repartent avec énormément de potiers. D'ailleurs, ils mettent fin à une production qui était celle des punchong, qui étaient des grès à couverte, céladon, produit dans toute la Corée, notamment dans le sud de la péninsule, avec diverses techniques décoratives et dans un style très libre et très spontané. Les Japonais vont partir avec la plupart des fondateurs de ces ateliers-là, et donc la production de punchong disparaît après l'invasion. Et par contre, au Japon, ces potiers coréens vont bénéficier de droits importants. Enfin, ils sont pas du tout réduits en esclavage, puisqu'on leur demande on les installe sous protection des seigneurs, et notamment à Harita. Ça coïncide avec la découverte de kaolin au Japon, dans cette région aussi. Donc le kaolin, c'est la matière nécessaire à la production de porcelaine. Et donc les potiers coréens, après, au Japon, vont vraiment être les artisans de la tradition porcelainière japonaise. Donc c'est eux qui créent les kakemon, les harita, les imari, et même ces pièces qu'on appelle les pièces nabeshima, donc ces pièces à décor extrêmement sobre et raffiné, qui sont destinées aux seigneurs. Ils conservent d'ailleurs l'usage de leur langue et un certain nombre de traditions dans ces endroits à Harita, jusqu'à l'ère Meiji quasiment.
Effectivement, elle fait l'objet d'un culte, en tout cas à Harita, apparemment, cette potière coréenne. Et donc, si vous voulez, le film qui évoque cette histoire, bien qu'elle soit très romancée, je pense, ça s'appelle Yuni, la déesse du feu. The Goddess of Fire.
D'accord.
Voilà.
Je regarderai.
Et Laurent va se précipiter dans les catalogues de nos fournisseurs pour voir si on peut l'acheter en DVD pour le mettre dans la salle de lecture.
Non, juste un point là-dessus. Les Coréens étaient attachés à des fabriques d'État et étaient assez misérables et devaient produire un certain nombre de pièces en Corée même. Au Japon, on dit toujours que c'est une... dans la tradition historique coréenne, que ça a été une tragédie, que ce rapt, oui, ça a été une tragédie pour l'industrie de la porcelaine coréenne. Mais au Japon, les villages coréens, après quelques tâtonnements du début, le déracinement, etc., sont restés coréens, et à la suite de différentes... petite rixe, vexation subie par ces néo-arrivants, primo-arrivants étrangers par les populations locales, eh bien, beaucoup de ces villages ont obtenu un statut particulier dont les chefs sont devenus samouraïs, donc féodaux, au service des seigneurs du cru, tout en restant, malgré tout, coréens. D'où des Coréens se promenant en costume coréen, parlant coréen, parlant un peu japonais bien sûr aussi, mais avec les deux sabres pendant longtemps. Et c'est la révolution Meiji et l'école japonaise, nationale et bien pensante pour tous, etc., qui a assassiné cette spécificité qui produisait encore des pièces écrites aussi en coréen, avec Turangul, le cas échéant. Il y a quelques poèmes qui ont été retrouvés et qui avaient aussi leur culte coréen. On retrouve des textes soit en coréen, soit sans doute en japonais sur ces choses-là. Il y a même eu un grand ministre des années 40 qui était d'origine de ces villages de potiers, donc d'origine coréenne.
Et à la différence de ce qui se pratique en Corée, les potiers coréens au Japon ont pu signer leurs pièces et fonder des dynasties nominatives, si je puis dire, et donc sont passés du statut d'artisan au service d'un four organisé au statut d'artiste. Donc ça s'est fait au Japon, et c'est aussi lié au prix que les Japonais accordaient aux céramiques coréennes dans la cérémonie du thé, puisque les Japonais vouaient un culte notamment au bol punchong, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui était extrêmement apprécié dans la cérémonie du thé.
Avez-vous d'autres questions, ou avons-nous assouvi votre curiosité ? Alors, pour clore cette soirée, je tiens à remercier particulièrement la Cité de la céramique de Sèvres, non seulement pour la beauté de son exposition, mais aussi parce que c'est une institution qui a associé 9 partenaires pour son dépôt, ça nous a été rappelé, mais l'a associé avec beaucoup de dynamisme, et cette soirée en a été la preuve, et d'avoir travaillé avec la Cité de la céramique de Sèvres pour préparer cette soirée notamment, ça a été un grand plaisir. Donc, je remercie nos deux intervenants, et donc la Cité de la céramique de Sèvres tout particulièrement. En faisant cette désannonce, oui, je vous laisse les applaudir. En faisant cette désannonce, je voulais juste vous rappeler que c'est la 3e conférence que nous consacrons à la Corée. L'année dernière, dans le cadre de notre cycle sur la géographie littéraire mondiale, nous avons eu une conférence croisant les pratiques de promotion littéraire en Corée et en Afrique, que vous retrouverez sur notre site avec les enregistrements sonores. Et en décembre dernier, nous avons une table ronde sur la traduction des sciences sociales avec une spécialiste de la Russie, un spécialiste du monde turc et Alain Delissen, spécialiste de la Corée, qui ont échangé sur la question de la traduction en sciences sociales, donc notamment depuis la Corée. Et nous nous retrouvons dans quelques jours pour une conférence dans notre cadre de cycle sur la traduction avec une romancière bulgare et sa traductrice. Et toujours dans cette logique d'exploration de nos collections, au mois de mai, nous recevons notre ancien directeur scientifique, Francis Richard, et la responsable des manuscrits orientaux de la BNF pour se pencher sur un étrange manuscrit ottoman à peinture dont les feuillets sont éparpillés de part et d'autre de l'avenue de France entre la BNF et la Bulac. À bientôt et merci pour votre présence.